Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour 2 heures d'infos, de découvertes avec vous et à la une, la peur du réservoir vide. Est-ce qu'il y aura de l'essence pour les départs en vacances dans une semaine?
La CGT maintient la grève chez Total Energy. Les autres syndicats ont signé un accord sur les salaires.
À suivre aussi.
38 jours à Downing Street, une contestation grandissante. La première ministre britannique poussée aujourd'hui à de nouvelles concessions. Londres, où des militants écolos ont aussi fait parler d'eux en aspergeant de soupe un tableau de Van Gogh. Et puis la mauvaise nouvelle confirmée à un mois du mondial au Qatar. L'infatigable milieu de terrain, N'Golo Kanté est forfait.
À 18h15, notre invité sera Valentin Gendreau, journaliste infiltré à l'I3P. L'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la police à Paris. Schizophrénie, bipolarité, il met des visages, des histoires sur ces termes presque tabous dans notre pays. Dans un quart d'heure, la brigade RTL, des amendements votés en série contre l'avis du gouvernement, mais le 49-3 risque de tout régler. L'Assemblée travaille-t-elle pour rien? Dans une demi-heure, les dessous des envies de départ de Kylian Mbappé. Peut-il rompre son contrat avec le PSG? Et puis 18h40, on va refaire nos régions. Comme chaque vendredi, 20 minutes près de chez vous.
Avec des lycéens, stars de ciné à Grenoble, un centre d'accueil pour réfugiés qui divise en Loire-Atlantique et une tourte à la viande dans le Haut-Rhin.
19h15, Anaïs Bouton et ses copains de la presse étrangère refont la France et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Tendance?
Un grand classique demain, nord-sud, le sud au soleil, le nord sous les nuages et la pluie.
Ça s'inverse jamais ça. Tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
29,1% hier, 28,5% ce soir. La proportion de stations-essence toujours en difficulté. Le week-end s'annonce donc encore compliqué dans certaines régions.
Oui, plus d'un tiers toujours des stations concernées en Ile-de-France. Ça s'améliore un peu, près d'un quart dans les Hauts-de-France. Ça empire en revanche en centre-Val de Loire, 42% des stations. Voilà donc pour les conséquences concrètes, toujours de la mobilisation qui se poursuit chez Total Energy.
Parce que la CGT ne veut pas de l'accord signé cet après-midi par deux syndicats majoritaires, CFDT et CFE-CGC, accord qui prévoit 7% d'augmentation dès le mois prochain et 3 à 6 000 euros de primes.
La CGT y voit une manipulation. Fabien Cros est le représentant du syndicat sur le site de la bioraffinerie de la MED.
Une fois de plus, c'est signé par les mêmes organisations collaborantes qui ne sont pas sur les piquets de grève et qui vont expliquer aux salariés en colère la manière dont il faut qu'ils se comportent. On aurait préféré qu'elles viennent nous aider sur le terrain des luttes. Bon, c'est que c'est par essence impossible pour eux, donc on s'attendait à ce genre de manipulation et fatalement il va y avoir une réponse de la CGT. Le problème c'est que Total est en train de jouer cette division, mais pas cette division que syndicale parce qu'il a toujours fait. Il joue cette division entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui en gagnent pas chez Total.
5 sites de Total Energy sont donc toujours en grève. Vous entendiez ces propos recueillis par Étienne Baudu. Ce que regrette le coordinateur CFDT, signataire lui de l'accord, Geoffrey Caillon.
Notre objectif en venant dans cette négociation, c'était d'apaiser par un accord qui est de bon niveau. Et aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'il est de bon niveau. Voilà, par le dialogue social, on arrive à obtenir des résultats positifs pour les salariés. On arrive à faire avancer des choses. On n'est pas toujours obligé de se foutre sur la tronche pour arriver à obtenir quelque chose. Ce n'est pas ma conception du syndicalisme et ça ne le sera jamais. Nous, on espère vraiment que la signature de cet accord va amener à baisser la tension et on passe à autre chose.
Voilà ce représentant CFDT avec Pierre Herbulot, parole de syndicat divisé chez Total.
Et une question ce soir, alors que les vacances de la Toussaint approchent et que le mouvement continue, donc quand pourra-t-on faire le plein normalement? Emmanuel Macron a évoqué un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine.
Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Certains s'inquiètent pour leur congé. Au vu des dernières évolutions, est-ce que c'est aujourd'hui crédible un retour à la normale dans les prochains jours?
En tout cas, c'est le but, notamment avec les réquisitions. Et puis pour répondre le plus rapidement possible à la demande, le gouvernement a pris un arrêté afin que les camions-citernes puissent circuler tout le week-end. Il a aussi demandé la mobilisation des transporteurs et des distributeurs pour alimenter au plus vite les stations. Du carburant, un sort du dépôt de Total Energy près de Dunkerque, dans le Nord. 35 camions depuis la reprise hier, c'est plus de 20 000 pleins de voitures. Au dépôt de Saint-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime, ce sont 7 000 mètres cubes qui sont sortis par pipeline en 24 heures pour alimenter l'Île-de-France. Et donc ça va continuer continuer au moins sur ce rythme. Le travail va reprendre dans les raffineries Esso en Normandie et dans les Bouches-du-Rhône. La grève est levée. Vous le disiez, le mouvement se poursuit, lui, dans 3 raffineries et 5 dépôts de Total. Mais à Donges, en Loire-Atlantique, les grévistes de la CGT disent que des livraisons de carburant auront lieu quand même de manière sporadique durant le week-end pour apaiser, disent-ils, les tensions. Alors, pour un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, il faudra aussi peut-être en passer par de nouvelles réquisitions, c'est à voir. Quand le carburant, en tout cas, sortira de tous les dépôts, il ne faudra qu'un jour ou deux pour ramener le calme dans les stations-service, estime l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
Voilà, ces réquisitions toujours contestées en justice par la CGT. Un recours contre la réquisition du dépôt de Dunkerque doit être examiné ce soir après le rejet d'un premier recours en Normandie
aujourd'hui. En tout cas, faire un plein, normalement, c'est l'espoir de nombreuses professions après 18 jours de grève.
Et Christian Panvert, vous avez passé la journée compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, aux côtés d'un déménageur tourangeau dans son camion.
Bertrand Jaunet dirige l'entreprise Tour Déménagement. Tous les jours, pour lui et ses 4 salariés, c'est la même galère. Patienter dans les files d'attente avant de faire le plein.
Vous êtes bloqué pendant un petit moment avant de pouvoir réussir à repartir, en espérant qu'arrivé à la pompe, il y a encore du gasoil.
Pas de temps à perdre, il organise son planning dans le camion.
Je suis obligé de travailler, de rappeler mes clients, les rassurer surtout. Les gens m'appellent tous les soirs en ayant peur de ne pas déménager dans les jours à venir. Ils se proposent même de nous donner du gasoil qu'ils vont chercher dans leur voiture.
Et les camions comme celui dans lequel on est consomment beaucoup.
C'est un camion qui fait 17-18 litres. C'est notre gros budget, ça, nous, dans le déménagement. Je sais pas comment on va finir l'année, quoi. Ça avance un petit peu. Attendez, je sais pas où.
Vous en voulez aux grévistes ?
On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, mais il faut que tout le monde travaille. Moi, j'ai mes gars, ils vont plus avoir de salaire, ils vont être au chômage. Est-ce que c'est normal ?
1h30 plus tard, Bertrand a fait son plein pour 180 euros. Il peut prendre la route direction Paris, un peu stressé.
Je suis très content, bon, en espérant que je puisse revenir de Paris demain.
Un reportage RTL de Christian Panvert.
RTL Soir.
18h06. Combien de temps va-t-elle tenir ? 38 jours seulement après son arrivée au pouvoir, la première ministre britannique se retrouve déjà sur la sellette.
Critiquée par son propre camp, bousculée par le monde économique qui doute de la crédibilité de ses mesures budgétaires et au plus bas dans les sondages, elle a déjà remercié aujourd'hui son ministre des Finances.
Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Liz Truss s'est expliquée cet après-midi avec à la clé une concession pour relâcher la pression et sauver son poste.
Oui, Liz Truss a annulé la baisse de la taxe sur les sociétés. Ça s'ajoute au demi-tour qu'elle a fait il y a quelques jours sur la baisse des impôts des gros salaires. Mais le reste de son budget, si controversé, reste intact. Sinon, d'ailleurs, la première ministre n'a pas fait de mea culpa, au contraire.
Je veux une économie avec des impôts bas, des salaires hauts et une forte croissance. Cette mission reste inchangée, mais il est clair que certains aspects de mon mini-budget allaient plus loin et plus vite que ce à quoi les marchés s'attendaient. Donc, la manière d'accomplir notre mission doit changer.
En somme, ni elle ni son ministre des Finances, qu'elle a dû limoger pour le symbole, n'avaient tort, ils sont juste incompris. Le nouveau ministre des Finances est considéré comme une valeur sûre, ex-ministre de la Santé, ex-ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt est une figure rassurante, mais ce discours de Liz Truss, délivré sans enthousiasme, a loin d'être convaincu le parti conservateur. Robotique, une horreur, selon 2 députés. De l'avis de certains membres du parti conservateur, l'entêtement de Liz Truss aurait même empiré les choses, elle est plus fragile que jamais ce soir.
Affaire à suivre. Vivre donc Marie Billon à Londres pour RTL.
Nous faisons tout ce qu'il faut. Les mots de Vladimir Poutine cet après-midi sur la guerre en Ukraine. Le maître du Kremlin qui ne voit pas par ailleurs la nécessité de pourparler avec son homologue américain Joe Biden. La Russie accusée aujourd'hui par l'ONU de faire des viols et des agressions sexuelles recensées par dizaines en Ukraine. Une stratégie militaire.
Le journal continue dans un instant dans RTL Soir avec 1. Un Van Gogh aspergé de soupe, action polémique de militants écolos à Londres. Et 2. N'Golo Kanté, forfait pour la Coupe du Monde. On en parle juste après ça, tout de suite.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, vous écoutez RTL Soir, la suite de votre journal avec une action qui interroge mais qui a le mérite de faire parler. C'est sans doute ce qui était recherché d'ailleurs par ces jeunes militants écolos. Ils s'en sont pris à un tableau de Van Gogh.
Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Ça s'est passé à la mi-journée à la National Gallery dans un musée à Londres.
Oui, 2 militantes écolos ont jeté 2 conserves de soupe à la tomate sur l'œuvre de Van Gogh, les tournesols, puis se sont collé les mains sur le mur.
L'art vaut-il davantage que la vie ? Êtes-vous plus concerné par la protection d'une œuvre ou de la planète ? La crise de la vie chère et la crise climatique sont provoquées par le pétrole et le gaz.
Les deux jeunes filles font partie du collectif Just Stop Oil qui réclame l'arrêt des forages pétroliers. Ils visent notamment le nouveau gouvernement de Liz Truss qui a relancé les autorisations d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord et a levé le moratoire sur la fracturation hydraulique.
Émilie, on parle d'un tableau à plus de 80 millions de dollars. Il est foutu, il est ruiné ce tableau ?
Alors non, il n'est pas foutu, il n'est pas ruiné. Il est en fait protégé par une vitre, ce tableau, les tournesols. Donc il n'a pas souffert. Mais sachez quand même que ce collectif mène en ce moment dans les rues de Londres différentes actions coup de poing pour le climat. Et quelques heures après ces tomates sur Van Gogh, une militante a aspergé l'entrée de Scotland Yard de peinture jaune.
Donc on peut penser qu'il savait qu'il y avait une vitre devant le tableau ?
Faut espérer.
D'accord.
Enfin, un premier et surtout, on espère, un dernier forfait de taille en équipe de France à un peu plus d'un mois du Mondial au Qatar.
Ah oui, malheureusement, le milieu de terrain N'Golo Kanté ne disputera pas la compétition, Eric Silvestro.
Effectivement, la crainte des derniers mois, des dernières semaines est malheureusement devenue réalité. Le si précieux milieu défensif des Bleus ne sera pas suffisamment rétabli pour la Coupe du Monde. La faute à une rechute la semaine dernière, avant le match de Chelsea contre Milan en Ligue des Champions, d'une blessure aux ischio-jambiers qui inquiétait déjà son entraîneur Graham Potter.
C'est un pas en arrière, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'on le verra jouer avant la Coupe du Monde.
Nous sommes donc en mesure de vous confirmer que l'infime espoir s'est envolé. N'Golo Kanté va devoir se faire opérer, donc ne figurera pas, bien sûr, dans la liste de Didier Deschamps dévoilée le 9 novembre. Un épilogue cruel, mais finalement logique, tant Kanté a été miné par les pépins physiques depuis la fin de l'Euro 2021. 3 matchs seulement disputés avec l'équipe de France et 2 avec Chelsea cette saison. Reste maintenant à espérer que Paul Pogba puisse lui récupérer de son opération au ménisque.
Ouais.
On se bien ce mondial. Voilà.
Et Tchouaméni, il faut qu'il prenne de la hauteur.
Encore un mois pour se préparer. Le foot toujours et l'agacement de Christophe Galtier cet après-midi en conférence de presse, malgré le choc de dimanche contre l'OM, que vous avez bien noté, Julien, sur votre calendrier. Oui. C'est en grande partie de Kylian Mbappé et de ses envies de départ ou de l'armée numérique du club dont il a été question. On n'est que sur de l'extra-sportif. Vous ne parlez jamais de football. L'entraîneur du PSG, visiblement lassé de réagir au soubresaut de la vie de son club et de ses joueurs, le quotidien, bref, d'un entraîneur du PSG.
Effectivement, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, chère Valérie ?
Eh bien, on récupère beaucoup de douceur partout, y compris sur la moitié nord où il y aura des pluies une grande partie de la journée, des pluies qui vont se concentrer de la Charente jusqu'au Grand Est. À l'arrière, on peut espérer quelques petites éclaircies vers les Ardennes, le Nord, le bassin parisien ou encore les Pays de Loire. Il y aura des averses un peu plus fréquentes le long des côtes de la Manche. Plus on va aller vers le sud, plus on va trouver un ciel tout bleu avec des températures qui grimpent partout. 19 degrés à Rennes et Paris demain après-midi, 20 degrés à Orléans et Strasbourg, 25 à Toulon et Nîmes et même un très beau 27 degrés à Agen.
Merci Valérie.
La brigade RTL soir.
Et la brigade RTL s'interroge ce soir. Que se passe-t-il exactement à l'Assemblée ? Les députés examinent en ce moment le budget jour et nuit, mais la menace d'un 49-3 plane. Pour mieux comprendre, on va poser 3 questions à William Galibert. Bonsoir William.
Bonsoir.
Des amendements ont été votés, William, contre l'avis du gouvernement, parce que désormais les marcheurs n'ont plus, on le sait, la majorité absolue.
Oui, c'est ça. C'est un petit jeu qui a eu lieu toute la semaine.
Pour 227 contre 88, l'Assemblée nationale a adopté.
Victoire, les oppositions se prennent dans les bras, le gouvernement soupire, lève les yeux au ciel parce qu'il vient d'être battu. Mais battu sur quoi ? Par exemple, les socialistes ont fait voter cette semaine 675 millions d'euros de crédit d'impôt pour les résidents des EHPAD. Les Républicains ont revalorisé les primes pour faire rénover sa maison. Et puis même le Modem, qui fait pourtant partie de la majorité, a fait voter une taxe sur les super dividendes des actionnaires. Taxe dont le gouvernement ne voulait pas non plus entendre parler.
Si le gouvernement utilise le 49-3, il peut balayer d'un revers de main tous les amendements qui ne lui plaisent pas ?
Oui, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il peut garder son projet initial, il peut ajouter des choses dont il n'a même pas discuté dans l'hémicycle. Et en ce qui concerne les amendements dont on vient de parler, ceux de l'opposition, rien ne l'oblige à les conserver. Et d'ailleurs, pour l'instant, on comprend que la grande majorité de ce que les oppositions ont fait adopter va finir à la poubelle.
Ça veut dire que l'Assemblée a peut-être travaillé pour rien ?
C'est ce que dénonce l'opposition. l'opposition. Dans ces conditions, à quoi bon venir dans l'hémicycle ? S'est offusqué le député RN Sébastien Chenu.
Je ne sais pas si vous avez, chers collègues, le goût de l'effort inutile. En tous les cas, nous, assez peu. Donc la question se pose vraiment de savoir si vous prenez la représentation nationale pour des imbéciles ou si vous continuez à nous faire travailler dans le vent et accessoirement si vous prenez aussi les Français pour des imbéciles.
Mais là, on est de retour dans le petit jeu politique. Les oppositions veulent se montrer sous leur meilleur jour, constructives, utiles au pays, et le gouvernement, au contraire, répète mais regardez-les en train de hurler et de dilapider l'argent public. Bref, chacun prend l'opinion à témoin en espérant que c'est l'autre camp qui sera jugé sévèrement par les Français. Julien, va falloir encore être patient parce que le budget se divise en 5 parties. Ça veut dire que le 49-3 va devoir être dégainé 5 fois.
Très bien. La brigade RTL avec les explications de William Galibert ce soir. Dans un instant, notre invité sera un journaliste infiltré. Valentin Gendreau a infiltré l'I3P, l'infirmerie psy de la police de Paris, là où toute personne arrêtée en crise démente et est envoyée. Il écrit un livre à la fois humain et préoccupant sur l'état de la psychiatrie dans un pays qui a bien du mal à soigner les têtes. A tout de suite, vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir et notre invité maintenant à 18h20 est un journaliste infiltré. Bonsoir Valentin Gendreau.
Bonsoir.
Le grand public se rappelle sans doute de votre précédent livre très médiatisé. Vous vous étiez glissé dans l'uniforme d'un policier parisien. Votre nouveau livre sort chez Albin Michel, L'I3P infiltré. Alors l'I3P, votre première affectation, infirmerie psychiatrique de la police parisienne, c'est un terme qu'on connaît très très peu. C'est une structure unique en France. Vous écrivez, c'est la gare de triage de la folie de la capitale. C'est quoi exactement l'I3P, si vous pouviez le résumer à nos auditeurs ?
Je vais vous donner un exemple assez radical, mais que j'ai déjà rencontré. Vous avez un homme nu qui court dans les rues de Paris avec un couteau à la main. Il présente des troubles du comportement. Il est interpellé par la police. La police va d'abord le placer en garde à vue. Et en raison de ces troubles du comportement, il sera orienté, transféré vers l'I3P, l'infirmerie psychiatrique. Et c'est là que l'expression garde de triage intervient, c'est-à-dire que cette personne-là sera examinée par un psychiatre qui va décider s'il y a hospitalisation en psychiatrie ou non.
Et vous, votre boulot, c'était de conduire ces personnes soit du coup en garde à vue où elles retournaient, soit à l'hôpital, c'est ça ?
Uniquement s'il y avait hospitalisation.
Hospitalisation parfois sans consentement, ça c'est important de le préciser.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant on appelait ça les hospitalisations d'office, les HO. Ouais. Aujourd'hui ça s'est diversifié, mais c'est le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on va hospitaliser des personnes en psychiatrie sans leur demander leur avis.
Vous vous souvenez de votre premier jour à l'I3P ? Vous avez retrouvé vos notes quelque part, parce que c'est vrai que vous avez écrit ce livre longtemps après cette expérience, et vous écrivez que le premier jour, il y a un homme qui crie « Vive le diable, je vais vous emmener en enfer ». Ça va devenir votre quotidien pendant plusieurs semaines.
Ce genre de phrase, des gens qui vont dire en regardant des infirmiers ou des psychiatres « Mais c'est la Gestapo, c'est la milice, et qui sont ces gens ?» C'est les coups sur les portes, c'est des plateaux repas qui volent dans les chambres, c'est par exemple des cubes de betterave qui volent dans une chambre et le jus de la betterave qui va passer sous la porte comme ça et qui va remplir le couloir. Ouais, c'est un univers extrêmement particulier. On est entre le carcéral et le médical, entre le policier et le santé. C'est extrêmement particulier et c'est aussi La question que je pose dans le livre, c'est aussi l'existence même de cette structure-là, ouais. Qui est unique en France, comme vous l'avez rappelé. On peut même dire qu'elle est unique en Europe.
Ouais, et qui fait polémique, notamment par son existence. Après votre expérience à l'I3P, vous avez retrouvé certaines personnes que vous aviez conduit justement, et vous mettez des visages sur des termes méconnus comme schizophrénie, bipolarité. Vous racontez des histoires de malades. Il y a notamment l'histoire de Mathias dans le livre, interpellé garde du Nord à l'époque armé, et vous racontez, parce que vous le rencontrez ensuite, qu'il entendait des voix, qu'il voyait des signes mystiques partout.
Oui, c'est ça. Et au moment où il est interpellé par les douaniers à Gare du Nord, il voulait tuer des gens. Les douaniers retrouvent des couteaux dans son sac. Ils retrouvent aussi dans son journal intime le fait qu'il voulait se suicider. C'est un moment où Mathias est en crise. Et moi, je le rencontre 2 ans après. Et je me retrouve tout seul dans son appartement à Saint-Denis. Et au moment où je le rencontre, j'envoie l'adresse à une amie pour lui dire où je suis. Et si je reviens pas, je suis rendu dans cet appartement-là. Et je fais évidemment pas le malin. Et puis en fait, au bout de 10 minutes, il me propose un café. et puis on s'est vu cette semaine. Et aujourd'hui, la particularité de Mathias, c'est pas sa maladie, c'est pas sa pathologie mentale, c'est sa capacité à pouvoir s'intégrer dans la société française. Mmh. C'est vraiment ça la problématique. Reste, il prend son traitement tous les mois et tout va bien de ce côté-là.
Et vous racontez souvent, dans l'histoire de Mathias, comme dans l'histoire d'autres personnes dans ce livre, qu'il y a parfois, souvent, un traumatisme au début de ces pathologies, un père violent, un déracinement chez d'autres, des viols. Vous éclairez quelque part le passé de ces personnes pour expliquer leur folie, en quelque sorte.
Oui, parce que j'ai le sentiment, en tant que journaliste, que lorsqu'on parle de psychiatrie, on s'arrête trop rapidement aux faits divers. Et derrière le fait divers, évidemment, il y a toujours des gens qui sont avant tout en souffrance. Et moi, ça m'intéresse de pouvoir les humaniser. Oui. Ça m'intéresse de m'en tenir évidemment aux faits, les faits. Cette règle journalistique-là qui est pour moi omniprésente dans mon travail. Mais c'est de montrer que bien souvent, ces gens sont ce qu'on appelle des personnes carencées d'un point de vue éducatif, affectif. Et que, comme vous l'avez dit, effectivement, ils ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance ou dans leur adolescence.
Et vous racontez aussi le combat de leurs proches. Par exemple, dans ce livre, les parents d'un certain Thomas, un jeune, vous dites qu'il aurait pu devenir une star du skate, mais la maladie en a décidé autrement. Ils finissent par vivre avec leur enfant devenu adulte, torturé, inaccessible, ce sont vos mots, violent. Ils dorment habillés avec un marteau sous le matelas. On découvre dans ce livre la souffrance des familles.
C'est souvent ce qu'on met de côté, effectivement. C'est le fait que les parents de Thomas ont vécu pendant 6 ans un véritable enfer avec un monstre chez eux qui ne refuse d'aller à l'hôpital, qui refuse sa maladie, qui est dans le déni, qui refuse le moindre traitement. Et qui, du coup, un jour, un peu par miracle, ils arrivent à faire hospitaliser. Alors, évidemment, ils le font pas de gaieté de cœur, mais c'est pour son bien. Et d'ailleurs, j'ai aussi rencontré son père, retrouvé son père il y a pas très longtemps, et Thomas est retourné chez eux. Donc l'enfer qu'ils ont vécu pendant 6 ans reprend.
Ouais, ce sont des parcours de patients souvent non détectés, mal suivis, parce que la psychiatrie a perdu 65 000 lits en 35 ans, et aussi parce que personne ne veut y travailler. D'ailleurs, c'est ce que les infirmiers vous confient.
Les infirmiers, en IFSI, donc dans les écoles d'infirmiers, vouloir travailler en psychiatrie, c'est très mal vu. Il y a un côté, vous allez faire des gâteaux avec les patients, vous allez jouer au Uno, mais au final, vous n'êtes pas vraiment là pour faire des soins. Le somatique, c'est ce qui plaît le plus souvent aux infirmiers psychiatriques. Il y a également la pénurie de médecins. S'il n'y a pas de médecins dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les centres médico-psychologiques, donc en psychiatrie ambulatoire, il n'y a pas de prescription médicale. Donc ça casse complètement la chaîne de traitement.
Il faut changer l'image de la... Je n'aime pas ce terme, mais de la folie en France. Vous dites dans le livre, on peut être parlementaire et diabétique, mais pas député et schizophrène. On est dans un pays qui, en fait, soigne les bras, les jambes, mais qui ne sait pas soigner la tête. C'est tabou, selon vous ?
Oui, bien sûr. On va beaucoup plus souvent... parler du sang qui coule dans des faits divers. En revanche, on va jamais parler de l'angoisse que les gens peuvent avoir. Et la grande majorité des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie, les 420 000 personnes hospitalisées l'année dernière, dans la grande majorité, sont des gens angoissés, des gens qui ont peur. Et ça, on n'en parle absolument pas. Et comme vous venez de le dire, effectivement, il n'y a pas de député schizophrène ou de sénateur bipolaire.
Comment vous avez vécu, vous, cette infiltration qui est particulière, qui doit être dure? Vous racontez dans un chapitre cette rencontre que beaucoup d'auditeurs aussi ont dû faire avec une personne au comportement anormal, pieds nus, hurlant dans le métro. Vous dites « j'ai eu l'impression de croiser quelqu'un qui arrivait à l'I3P ».
Mais j'ai passé 15 mois à l'I3P, où j'ai dû emmener peut-être plus d'un millier de personnes vers des hôpitaux psychiatriques. Donc évidemment, mon univers professionnel et mon univers mental, c'était quand même la psychiatrie. Donc quand vous voyez ça au travail tous les jours, le soir quand vous rentrez chez vous, vous les voyez aussi. Et vous les détectez sans doute plus facilement qu'avant. Avant, je tournais la tête. Aujourd'hui, quand j'en croise, j'essaie d'avoir... Bon, je ne vais pas forcément discuter avec eux. J'ai la même peur que tout le monde, je crois. Mais en tout cas, je vais m'arrêter beaucoup plus facilement qu'avant.
Merci Valentin Gendreau. L'I3P infiltré, c'est un formidable livre, nécessaire, éclairant. Il est disponible en librairie. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. On va marquer une petite pause. Et puis, toute autre chose, on va continuer à vous informer, vos dessous de l'actu avec cette question. Est-ce que Mbappé peut rompre son contrat? Et puis, laissez-vous tenter dernière avec un carton en librairie, mais pour les plus petits, cette fois-ci. Gertie, le chien qui parle. À tout de suite, vous écoutez RTL.
Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL. Bonne fin de journée, 18h31.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Si vous nous rejoignez à l'instant, Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité de cette soirée.
Un premier forfait de taille en équipe de France à un peu plus d'un mois du mondial. Le milieu de terrain N'Golo Kanté ne disputera pas la compétition à cause d'une blessure à une cuisse. Un accord signé par deux syndicats majoritaires, mais la grève reconduite par la CGT chez Total Energy. 28,5% des stations en difficulté ce soir, selon le gouvernement. Heureusement, il était vitré, le tableau de Van Gogh, les tournesols aspergés à Londres par des militants écolos, aspergés de soupe à la tomate. Ces militants appellent à la fin des forages pétroliers et interpellent. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? Protéger un tableau ou la planète et ses habitants ?
Merci Marion. Le temps demain, Valérie.
Du soleil pour toute la moitié sud du pays. Ce sera plus mitigé au nord. On aura de grosses pluies même de la Charente-Maritime jusqu'à l'Alsace. Quelques éclaircies entrecoupées d'averses à l'arrière et surtout de la douceur pour tout le monde. On va partir de 18 degrés à Valenciennes demain après-midi pour atteindre 27 degrés à Toulouse.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous ce soir, des envies de départ de Kylian Mbappé. Il se sent trahi par le PSG. La star aimerait, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, quitter le club au plus vite. Mais comment ? Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Mediapart a donc révélé que le PSG utilisait une armée numérique pour nuire notamment à Mbappé. Est-ce que c'est un motif de rupture de contrat ?
Alors oui, c'est prévu dans les textes, confirment à RTL deux avocats spécialisés dans le droit du travail et dans le droit du sport. Le contrat de Kylian Mbappé est un CDD spécifique aux sportifs de haut niveau, contrat plus compliqué à rompre par essence qu'un CDI. Et pour qu'il puisse se libérer de ce contrat, il faut caractériser la faute grave et dans les faits au prud'homme, c'est-à-dire un joueur envers son employeur, son club, c'est une procédure extrêmement rare.
Ça c'est la théorie, en pratique on imagine que la procédure est complexe.
Mais oui, parce que Mbappé et ses conseils doivent prouver que la faute est tellement grave qu'il ne peut plus exécuter son contrat de travail. Ils doivent notamment prouver la déloyauté, ils doivent prouver que l'atteinte à sa réputation a pu lui nuire et qu'elle lui apporte un préjudice. Et là, il y a deux points névralgiques. Le premier, selon l'enquête de Mediapart, il n'y a pas de contrat établi entre le PSG et l'agence de communication chargée de mener ces campagnes de dénigrement. En clair, il va être difficile de remonter jusqu'au Paris Saint-Germain et de lui imputer la faute. Le second, c'est le temps judiciaire. Le PSG contesterait très probablement cette rupture et devant les prud'hommes, puis en cour d'appel, ça peut prendre des mois, voire des années. Autrement dit, pas une solution idéale pour le joueur.
Sans rupture de contrat, comment partir ? Il pourrait être vendu, Mbappé ?
C'est la théorie des avocats interrogés. Brandir cette menace pour finalement négocier un départ classique l'été prochain où les deux parties, dans le cas d'une réconciliation impossible, accepteraient de se séparer et Mbappé serait transféré dans un autre club.
Donc le feuilleton n'est pas terminé. Et on exactement continuera d'en suivre les épisodes avec vous, Nicolas Georgerot. Merci.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, place à Laissez-vous tenter dernière, qui prend tout son sens vraiment le vendredi parce qu'on vous propose des idées lecture, culture, cinéma pour le week-end. Idées de lecture, alors pour les 7-8 ans à peu près, si vous avez des enfants exactement ou des petits-enfants de cet âge-là pour le week-end. Un carton de librairie maintenant à découvrir. Bonsoir Laurent Marsic. Cet immense succès, il porte un nom, le journal de Gertie, sous la plume d'un auteur plutôt discret qui s'appelle Bertrand Santini.
Oui, il habite pas à Paris, il habite très très loin dans la campagne. Il se montre pas trop, on le voit pas trop à la télévision ou à la radio. Gertie, Julien, c'est une petite chienne. Toute cette histoire raconte ses aventures avec son humain Gaspard. Son journal, ses 11 romans sont écrits à la première personne, c'est-à-dire à la hauteur d'un chien.
Comment est née la série ?
Après 17 refus en maison d'édition,
ah ouais, Gertie, ça vaut le coup de persister.
Ah ben là, il a eu raison. Gertie est enfin née en 2015 et pour l'inventer, Bertrand Santini a tout simplement regardé autour de lui.
Alors Gertie, elle vient un peu de la réalité parce que ça a été ma chienne pendant de très longues années. C'est tout à fait un personnage exubérant qui me permettait de décrire des tas d'aventures et de parler du monde de la façon dont l'ont fait les écrivains que j'ai aimés, c'est-à-dire Roald Dahl ou Bill Watterson.
Alors si vous avez lu Roald Dahl, bah c'est pareil en fait. Le génie de Bertrand Santini, c'est de savoir dédramatiser nos emmerdes du quotidien.
Oui, pour compléter l'idée, c'est plutôt parler de choses graves de façon joyeuse. C'est ça, moi, qui m'intéresse.
Moi, je trouve ça nul d'être déprimé. Par chance, le chien est l'animal le plus doué pour le bonheur. Bien sûr, il existe des chiens malheureux quand ils sont prisonniers d'humains stupides ou cruels. Mais moi, j'ai de la chance. Mon humain est super. Il fait toujours tout pour que je sois heureuse.
Le monde de Gertie, c'est pas un monde rose bonbon, c'est vraiment notre monde à nous. Moi, j'appelle ça un peu un cheval de Troie. Traiter les sujets graves, toujours avec, je dirais, ce paravent de l'humour qui nous permet d'avoir un pas de côté et puis d'aborder les choses de manière plus facile.
C'est le principe des fables, en fait. L'animal, ça permet de dire des vérités que les humains, à cause des codes et tout ce qu'il y a dans la société, ne peuvent pas dire. Bah, Gurti, elle le dit.
Et donc, ça cartonne en librairie.
Non, mais tenez-vous bien, il s'en est vendu 500 000 exemplaires. Ah, oui. Là, on est sur l'équivalent des plus gros vendeurs de livres en littérature adulte que sont les Joël Dicker ou Guillaume Musso. Alors, pourquoi ça fonctionne? Réponse de l'auteur, Bertrand Santini.
Moi, je pense que c'est parce que je ne pense pas aux enfants quand j'écris. Et je pense que c'est ça qu'ils apprécient. Ils perçoivent que c'est une voix naturelle.
S'il y a des loupiots qui nous écoutent, s'il y a des parents qui nous écoutent, le journal de Gurti, tome 11, Moi, j'adore être heureuse aux des éditions Sarbacane, vient de sortir. J'ai adoré parce que ça a été ma petite bulle de bonheur un soir de déprime en sortant du boulot.
Et quelque chose me dit que ça va être la petite bulle de bonheur d'un petit garçon à la maison, chez moi. Merci beaucoup, Charles-Laurent Marsic.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et RTL Soir, la suite, c'est dans quelques secondes. On va refaire nos régions, comme chaque vendredi soir, 20 minutes de découverte près de chez vous, avec des lycéens décrocheurs devenus stars de ciné à Grenoble, un centre d'accueil pour réfugiés qui fait beaucoup parler sur la côte atlantique, et puis une recette très très nourrissante dans le Haut-Rhin, préparée couteau, fourchette, on arrive.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.